Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va très bien. Donc j'espère que vous aussi. Bienvenue dans Soul for Soul, votre podcast où on parle de religion, de spiritualité et de la vie en général. Alors je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, mais je ne saurais pas vous expliquer de façon très détaillée et très argumentée pourquoi est-ce que j'ai décidé à la dernière minute de changer le contenu de l'épisode du jour. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Il faut savoir que, je sais pas pourquoi, mais ces temps-ci, ça revient, c'est une question qui revient beaucoup dans mes oreilles. Que ce soit dans ce que je lis, ou dans ce que j'écoute, ou dans les homélies sur lesquelles je tombe à l'église, il y a souvent cette question qui est répétée. Pourquoi Jésus est-il mort ? Et je me suis dit, à partir de tout ce que j'ai cru comprendre et tout ce que j'ai appris par rapport à cette question ces dernières semaines, j'ai de quoi faire un épisode et j'ai de quoi partager en fait quelque chose de nouveau avec vous. Et je me suis dit alors, let's go en fait, je peux le faire, du coup je vais le faire. Voilà, et il s'avère que jeudi passé, j'ai eu toute une conversation en fait avec un théologien et d'autres personnes de mon âge sur cette question de pourquoi Jésus est-il mort, et ça nous a amené sur d'autres sujets, sur d'autres questions que je vous partagerai. Et du coup je vais essayer de vous expliquer en fait ce que le théologien nous a appris de plus que ce que j'avais, les questions que je me posais déjà et auxquelles j'avais déjà essayé de me trouver des réponses. Et du coup voilà, en fait ce sera pas forcément hyper organisé, mais je vais essayer de tout faire pour qu'il y ait quand même une ligne directrice. Du coup, pourquoi Jésus est-il mort ? La réponse la plus spontanée qu'on peut donner à cette question, c'est que Jésus est mort pour nous sauver. Mais, tu sais, c'est la réponse qui n'en est pas une. Parce que, il est mort pour nous sauver, mais c'est une réponse qui te pousse à te poser d'autres questions. En tout cas, qui est censée te pousser à te poser d'autres questions. Parce que, effectivement, avec tout ce qu'on voit actuellement dans le monde, et je pense ce qu'on traverse individuellement, en tant que personne, il y a matière à... Il y a effectivement quelque chose à sauver. Il y a effectivement quelque chose à sauver, à améliorer. Et on pourrait même se dire, quelle était la nécessité pour Jésus de mourir pour que nous, on soit sauvés, et sauvés de quoi exactement et pourquoi ? Ça pousse aussi à se demander... Finalement, c'est quoi le projet de Jésus pour nous ? Et je me dis, la réponse à cette question, c'est que Jésus, il nous veut libres, en fait. Il veut nous rendre libres. Pour que, à partir de cette liberté-là, parce qu'on est déjà libre, en fait. On est déjà libre, il faut le voir comme ça. Mais que, à partir de cette liberté, nous puissions nous ouvrir, en fait, à l'amitié, à l'amour, qui est pour moi le plus beau sentiment qui existe sur cette terre. Et être libre pour aimer. Parce qu'en étant libre, du coup, en étant libre pour aimer, et cette histoire de liberté, d'amour que nous avons, est une longue histoire, en fait, du peuple de Dieu. Parce que comme le prêtre l'a si bien dit ce dimanche-là, pendant la messe, le Nouveau Testament permet de mieux comprendre l'Ancien Testament. Voilà. Le Nouveau Testament, c'est vraiment quelque chose qui vient mettre la lumière sur l'Ancien Testament. Et la raison pour laquelle Jésus est mort trouve en fait ses racines dans l'Ancien Testament. Et il faut savoir que si on va dans le début de l'Ancien Testament, on a le peuple hébreu en terre d'esclavage. On a l'expérience de Moïse devant le buisson ardent, qui est vraiment un épisode connu. Et on a l'une des premières manifestations de Dieu, en fait, dans le buisson ardent, qui va dire à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. Et on peut du coup comprendre que Dieu, c'est un Dieu, c'est vraiment comme un père en fait. C'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu qui ne peut pas rester indifférent au fait qu'on soit mal, au fait qu'on soit dans la misère, au fait qu'on ne soit pas heureux, au fait qu'on souffre. Alors que c'est nous qui l'avons trahi en premier. Et du coup, Dieu, du fait de sa compassion, va essayer de tisser une alliance avec nous. Donc c'est ce qui va se passer avec le peuple hébreu. Pour le coup, ils vont recevoir une terre, ils vont recevoir une loi, ils vont recevoir un temple comme lieu de prière. Et du coup, on observe vraiment comment est-ce qu'une alliance se crée à partir de l'amour que Dieu a pour nous. Ça, c'est vraiment tout ce qui se passe dans la majorité des histoires de l'Ancien Testament. Tu as Dieu qui vient créer une alliance avec les protagonistes. Et du coup, je pense qu'on doit essayer de se dire que on est ces protagonistes-là, que Dieu veut créer une alliance avec nous, et il faut qu'on puisse s'ouvrir et être disposé à la création de cette alliance-là. Il faut qu'on comprenne que Dieu ne fait pas que nous libérer, mais il veut aussi notre bonheur à travers le choix de l'amour et le respect de tous, y compris du plus petit. Et au fond, je me dis que l'Ancien Testament va nous dire que nous venons de Dieu, en fait. L'Ancien Testament nous rappelle que nous émanons de Dieu, que nous sommes une partie de Dieu, que nous sommes profondément aimés de lui et qu'il nous demande, en fait, mais tout en nous laissant finalement notre liberté, de l'aimer à notre tour. Donc, si je devais synthétiser cette idée-là, c'est que nous venons de l'amour, nous vivons par amour, pour l'amour en fait. Ah, c'est joli ça. Et Jésus, c'est celui qui parle à tous et qui relève tout le monde. Donc, notamment les exclus. Quand on lit l'évangile, on voit qu'il ne fait pas de distinction, en fait. Il vient donner la parole et la vie pour tout le monde, sans discrimination. Donc, ça, c'est encore une fois Dieu qui est proche et sensible à nos misères. Dieu qui veut nous sauver, quel qu'en soit le prix. Sachant que finalement, la petite parenthèse qui n'en est pas forcément une, le sacrifice de Jésus, il était autant valable pour les contemporains de Jésus que pour finalement toutes les personnes avec qui Jésus n'a pas vécu physiquement. Donc toi, moi, une personne qui ne veut pas accepter Jésus, mais pour qui Jésus est aussi mort et pour qui Jésus a aussi donné sa vie. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le Notre Père, que j'ai pas forcément développé dans l'épisode sur la prière, mais ça va venir, croyez-moi, ça va venir. On observe en fait que dans une société qui était complexe et sous domination, avec vraiment un système de classe et tout, parce que c'est dans ça que Jésus était, le plus important message du Christ, c'est que, au-delà de nous montrer la proximité et l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, il nous montre la proximité avec Dieu, qu'il appelle Père, ou Abba, dans le sens de Papa. Et il nous montre en fait que cette proximité-là, elle est possible et qu'elle est désirée par Dieu. Et ça, croyez-moi, à l'époque, ça semblait complètement lunaire. Parce que Dieu, c'est Dieu. Et du coup, ça n'a rien à voir avec un père. Enfin, c'est l'oméga, c'est la toute-puissance. Donc, il n'y a pas de possibilité d'une proximité aussi forte. Alors qu'en fait, si. En fait, si. Et le parallèle, du coup, avec le Notre Père, c'est que Jésus a dit à ses disciples que quand ils prient, ils doivent commencer en disant Notre Père. Ça veut dire que finalement, le fait d'appeler Dieu Père ou Papa, quand on prie, ça fait la différence. Ça fait la différence. Et effectivement, si on doit faire une petite analogie, tu te rends compte que tu ne vas pas... Après, ça dépend des relations que vous avez eues avec vos pères de façon générale. Mais les personnes qui sont très proches de leur père ne parlent absolument pas à leur père comme elles parlent à leur DG. Genre, vraiment pas. Et moi, je me dis que, honnêtement, considérer Dieu comme un père et établir une relation de ce fait avec lui, ça fait vraiment, ça marque vraiment la différence. Mais vraiment. Et plus que des rites, du coup, ou l'application d'une morale stricte, donc qui était incarnée par la loi, les pharisiens et compagnie, Jésus nous dit que son père souhaite tisser avec nous une relation intime. C'est-à-dire, au-delà de la religion, il y a une ouverture du cœur à choisir qui nous permet, en fait, de créer cette relation avec Dieu. Genre, vraiment, c'est hyper important. Il faut que vous puissiez, et que je puisse, et que nous puissions tous nous démerder pour créer une relation avec Dieu. Il faut vraiment que ce soit une priorité pour nous. Il faut que ce soit quelque chose que nous mettons en avant dans notre vie de tous les jours. Parce que comme je l'ai utilisé dans l'épisode précédent, Matthieu 6, verset... je sais plus si c'est 30 ou 31. Là où est ton trésor, là sera ton cœur, en fait. Donc, ce que tu considères comme étant rare, important, primordial, essentiel pour toi, c'est là-bas que sera ton cœur et c'est vers ça, en fait, que tu vas aller. C'est vers ça que tu vas marcher. Parce que tes actions vont te conduire à réaliser cette envie profonde-là que tu as de te mettre vers là où est ton cœur, en fait. Et il faut savoir que pendant cette petite conférence qui était donnée, du coup, par le théologien, on a parlé, du coup, du péché. Parce que finalement, le péché, et moi, c'est comme... Parce qu'on nous a demandé comment est-ce qu'on définirait le péché. Et moi, j'ai dit que pour moi, le péché, c'est quelque chose qui t'éloigne de Dieu. Et moi, à partir du moment où j'ai commencé à me dire que le péché, c'était quelque chose qui m'éloignait de Dieu, les choses ont commencé à devenir plus simples. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment le cas, mais je vous assure que dans ma tête, les choses ont vraiment commencé à devenir plus simples. Parce que le péché, finalement, c'est quelque chose qui vient gâter, abîmer la relation que tu as avec Dieu. Le péché, c'est quelque chose qui t'éloigne de Dieu. C'est quelque chose qui t'empêche d'être proche de Dieu. C'est-à-dire que le péché, c'est pas forcément, en tout cas de prime abord, une faute par rapport à une morale. Mais c'est vraiment le fait que tu laisses sciemment des choses entacher ta relation avec Dieu. Donc c'est comme un refus plus ou moins fort, plus ou moins conscient, d'aimer et de se laisser aimer d'une certaine façon. Tu veux bien aimer, mais un peu ou à ta façon, quand tu veux, comme tu veux. Moi, au début, quand le monsieur il a parlé, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il insistait autant sur ce côté de l'amour, mais du fait que Dieu est amour et que nous avons été créés pour, par amour, pour l'amour, et que je sais pas comment vous expliquer, mais il faut vraiment que l'amour guide nos actions, en fait. Je comprends totalement que le fait de sciemment abîmer la relation que tu as avec Dieu, bah c'est un manque d'amour, en fait. Genre, maintenant, je le comprends. Sur le coup, je l'avais pas compris, mais maintenant, je le comprends. Du coup, j'espère que je le dis de façon assez claire pour que vous puissiez le comprendre aussi. Et quelque part, je peux aussi concevoir le fait que s'ouvrir à l'amour, c'est super compliqué. Parce que, je pense, par nature, on n'aime pas l'inconnu. On n'aime pas s'abandonner dans des choses qui n'ont aucune certitude à nos yeux. Et c'est totalement normal. Après, il y a des personnes qui n'ont pas peur de l'inconnu, qui aiment justement quand elles ne savent pas à quoi s'attendre, etc. Mais de façon générale, on n'aime pas entièrement s'abandonner à ce qu'on ne maîtrise pas. On peut se dire que c'est justement pour ça que certaines personnes ont du mal, en fait, à s'ouvrir totalement à la personne, à Dieu, parce que tu t'abandonnes totalement à une entité que tu n'as jamais vue, que, a priori, tu n'as jamais entendue, à un plan pour toi, mais que tu ne maîtrises absolument pas. En fonction de si tu crois au destin ou pas, tu auras une appréhension différente de voir ce plan-là que Dieu a pour toi. Tu te dis, ah mais, enfin bon, franchement, c'est compliqué. On est tous d'accord pour dire que c'est vraiment compliqué, c'est pas évident du tout. Mais en même temps, il faut le faire. Et de la même façon dont s'abandonner complètement à Dieu, c'est pas quelque chose d'évident, en même surtout par amour et tout, bah de la même manière, s'ouvrir à l'amour, avec que ce soit avec un ami, une amie, une personne avec qui vous envisagez quelque chose ou pas, bref, s'ouvrir à l'amour, c'est ouvrir en fait l'opportunité d'être blessé et de souffrir. L'amour fait peur. L'amour fait vraiment peur. Et il est coûteux. Et tu grandis et tu réalises que il n'y a pas d'amour sans souffrance. Genre, même Jésus qui nous aime de tout son cœur, il a dû mourir pour nous sauver. Il a dû mourir par amour pour nous. Et du coup, ça aussi, c'est un autre type de réalité à accepter. Que finalement, aimer, c'est coûteux. Aimer, ça fait peur, Mais aimer, c'est l'une des plus belles choses qui puissent vous arriver parce que vous êtes fait pour aimer, en fait. Vous pourrez pas lutter longtemps contre votre nature première. Vous êtes fait pour aimer. Vous êtes fait pour aimer et l'un des plus grands commandements, c'est de pouvoir aimer l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup expliqué dans l'épisode 1 du podcast. Et si vous n'avez pas écouté, je vous invite à le faire. C'est que l'amour de l'autre commence par l'amour de soi. Et parfois, le fait de ne pas s'aimer rend l'amour difficile. C'est-à-dire l'amour de l'autre, mais aussi l'amour de Dieu. L'amour que tu vas avoir pour Dieu, que tu vas avoir pour Jésus, etc. Ça va rendre cet amour-là difficile. Et si je ne choisis pas d'aimer, je fais le choix d'aimer autre chose, consciemment ou pas. Parce que je vais devoir tourner, en fait, l'amour qui est en moi, qui constitue ma nature profonde, vers quelque chose d'autre, que je le sache ou pas. Genre, vraiment. Quoi qu'il en soit, on sait que l'origine du péché, c'est l'orgueil. L'origine du péché, c'est l'orgueil. Donc, manque d'amour d'une certaine façon. La volonté profonde, bon, profonde, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas, une volonté de se construire le plus seul possible, de ne dépendre affectivement, intellectuellement, moralement, spirituellement de personne, ou en tout cas, du moins de personnes possible. Pas de Dieu, pas de maître. Ou carrément, au contraire, on peut se dire que c'est une sorte de volonté de se construire par rapport aux autres dans la force, dans la domination plus ou moins subtile de l'autre, comme dans une certaine forme de séduction ou de manipulation de l'autre, enfin bon bref. Mais ce qui est sûr, c'est que les formes du péché sont multiples et plus ou moins visibles. Donc, je pense qu'on les connaît, on va dire quoi, on va dire mentir, voler, accumulation de biens, de plaisir, de prestige, de pouvoir, blablabla, bla bla, quoi qu'il en soit. Les conséquences, les conséquences du péché, elles sont diverses. Et elles ont une conséquence. Elles ont une grande conséquence. C'est-à-dire, au-delà du fait que la conséquence numéro une soit de nous éloigner de Dieu, il y a aussi le fait que ça va avoir une conséquence sur nous-mêmes. Déjà, on peut avoir une forme de déni, une sorte de posture défensive de « mais je n'ai rien fait » ou « ce que j'ai fait, c'est pas grave ». On peut être aussi dans une position où finalement, on va... Ça, en général, c'est plus dans la forme de déni. Tu vas te créer une addiction pour rien. Tu vas commencer à te dire qu'un truc que tu fais n'est pas si grave que ça et que finalement, tu peux le refaire. Et en même temps, tu peux au contraire être plutôt dans la tristesse, c'est-à-dire le fait de tout le temps faire le même péché, au lieu que tu cherches comment mettre les moyens en place pour arrêter ce péché-là. Et je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident, je sais que c'est difficile et que on n'arrête pas forcément de pécher en claquant des doigts ou juste en se disant « Ah mais tiens, j'arrête de pécher !» Genre c'est vraiment plus deep que ça, c'est vraiment une décision à prendre où tu vas mettre tous les moyens en place pour ne plus refaire ça. Et ça non plus, c'est pas évident. Mais ça peut te mettre dans la tristesse, ça peut te mettre dans la honte, dans la culpabilité de ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Dieu ne peut pas m'aimer pour ça, il ne peut pas me pardonner pour ça. Tu peux du coup te mettre dans une sorte de désespoir. Tu peux te renfermer à cause du péché et de la vision faussée qu'il va te donner du monde et de toi-même. Et c'est là qu'on peut se dire que Satan est fort, en fait. Parce qu'il réussit à te tenter, il réussit à te faire pécher et à te mettre dans une bulle qui va t'éloigner de plus en plus en plus en plus en plus de Dieu sans que toi-même tu n'aies forcément ce déclic. Parce que croyez-moi, il y a très peu de personnes qui comprennent que le problème du péché, c'est essentiellement le fait qu'il nous éloigne de Dieu. Enfin bon, bref. Comme même le juste pêche 7 fois 77 fois, je sais plus trop quoi. C'est une sorte de c'est une sorte de cycle infernal, en fait. C'est vraiment une sorte de cycle infernal. Et la mort du Christ nous offre, en fait, une ouverture à la vie. La mort du Christ nous offre une ouverture à la vie, une possibilité de demander pardon, de nous réconcilier avec l'amour, en fait, que Dieu a pour nous, et donc de faire revivre encore mieux la relation qu'on partage avec lui. Et du coup, Je pense que, par exemple, chez les catholiques, il y a le sacrement de réconciliation à travers la confession qui se fait, où les catholiques... Enfin, oui, 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 les catholiques estiment que lorsque tu vas à la confession, tu confesses du coup tous tes péchés devant un prêtre, mais qui, à ce moment-là, en fait, est une sorte d'incarnation de Jésus qui t'écoute directement. Et du coup, tu confesses tes péchés, ils te sont pardonnés et tu deviens un peu comme un être nouveau, blanc de péché, etc. Et voilà. Après, je sais que dans les autres religions chrétiennes, on estime que tu pars directement à Dieu, en fait. Ce qui est totalement normal. Tu pars directement à Dieu, tu te confesses directement à Dieu. Et tu... Voilà, bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que notre péché nous blesse nous-mêmes et blesse aussi les autres. Et face au mal et au péché, nous sommes à la fois complices et victimes. Et c'est tout ça, en fait, qui fait le cycle infernal. Et c'est pour ça qu'on doit, doit vraiment se démerder encore une fois pour sortir de ça. Et Jésus lui-même a été victime du péché des hommes. La trahison de Judas, la lâcheté de Pierre, la volonté de pouvoir les scribes et les maîtres de la loi, ou encore des politiques. Ponce Pilate qui s'est lavé les mains alors que dans le credo on dit genre vraiment le plus coupable de l'histoire. Bon bref, Jésus lui-même il était victime du péché des hommes en fait. Et la croix, paradoxalement, c'est une fenêtre ouverte sur un amour qui ne meurt jamais. Un amour qui 2000 ans plus tard est toujours là, t'a sauvé et m'a sauvé. Une croix qui nous a rachetés, qui nous permet en fait d'avoir l'opportunité de prendre, on va dire, de faire le bon choix, de prendre la bonne direction, de nous tourner vers Dieu, de nous abandonner complètement à lui et de regarder à quel point est-ce qu'il peut faire des merveilles pour nous lorsque nous lui laissons cette occasion. Après, on pourrait se demander pourquoi aller jusqu'à une croix ? Parce que effectivement, déjà la croix, grand symbole du christianisme, Jésus sur la croix, voilà. On pourrait quand même se demander pourquoi aller jusqu'à une croix. Jésus est mort pour nous, mais en plus, fallait qu'il meure d'une mort aussi atroce jusqu'à aller sur la... Je vous assure, la question de pourquoi la croix, elle est hyper légitime. Je ne sais pas si j'aurai une réponse à cette question-là, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression d'en avoir eu une. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense déjà dans la croix, il y a vraiment cette idée de sacrifice. Quand on dit l'agneau de Dieu en parlant de Jésus, il y a vraiment cette idée de sacrifice, en fait, qui est fait pour nous, qui est fait pour l'alliance, qui est fait pour la paix, qui est fait pour remplir, en fait, une mission, et que parce que c'est un sacrifice, c'est le genre de mission qui est... C'est-à-dire, ça, c'est éternel, en fait. Tu peux pas juste venir, vouloir nier la chose, et bim, elle n'existe plus. Après, je pense que l'idée de la croix sur une montagne... La montagne, il y a vraiment beaucoup de parallèles qui sont faits sur la montagne dans l'Ancien Testament, dans la façon de voir les choses et tout. Et je ne pourrais vraiment pas, pour l'instant, vous éclairer sur la question de la montagne, parce que moi-même, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais il y a de fortes chances que dans les épisodes à venir, on fasse un épisode pour parler du livre d'Habacouc, qui est un livre très court, il fait 3 chapitres, je vous invite à le lire. Et dans Habacouc, il y a vraiment cette idée de prophétie et du coup cette idée de montagne aussi, parce qu'en général, les hommes de Dieu avaient tendance à se mettre dans des lieux élevés, sur des montagnes, pour pouvoir voir / entendre les prophéties. Parce que la montagne étant très haute, supposée plus proche de Dieu. Enfin bon, bref, le truc avec la montagne aussi, c'est que autant tu es très haut, et tu vois du coup très loin, et tu as l'impression de voir plus de choses, autant c'est définitivement le lieu où tu vois le moins de détails. Bref, ça, on y reviendra. Mais dans tous les cas, La croix, c'est vraiment la fenêtre d'amour, la fenêtre ouverte, voilà, sur un amour qui ne meurt jamais. Un amour qui ne meurt jamais, et qui n'attend que tu lui dises oui, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as le déclic et que tu réalises que Dieu t'aime tel que tu es, pour ce que tu es, et que ça ne va jamais changer, et que tu as le droit de t'égarer et de revenir, et qu'il sera en fait comme dans la parabole du fils prodigue, il sera là et il t'attend en fait. Parce que la parabole du fils prodigue, du coup, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une histoire dans laquelle on a deux fils. On a un père, on a un des fils, on sait pas pour qui il se prend, bref. Le mec, il se lève et il dit à son père, en fait, il faut que je me donne mon héritage. Voilà, c'est ce qu'il dit à son papa. Sauf que le principe de l'héritage, c'est que ça se donne au gosse quand le père, il meurt, en fait. Voilà. Donc, d'une certaine façon, c'est hyper trash et c'est super lourd de demander ça, c'est super lourd de dire à son papa j'ai besoin de mon héritage là maintenant. Je suis désolée, peut-être que c'est moi, parce que moi j'ai toujours vu en mode c'est pas bon, moi cette partie j'ai toujours prise en mode en fait t'es là et t'attends la mort de ton papa parce que t'as besoin de ton héritage là maintenant, en gros, en très gros, et t'as l'audace de venir me dire que tu, bref. Et du coup c'est ce qui se passe. T'as un fils qui s'en va trouver son père et qui lui demande sa part d'héritage, là, maintenant. Donc le père, il va lui donner, voilà. Il va lui donner la fameuse part d'héritage avec laquelle monsieur, le fils, va partir. Sauf qu'il va partir et ça va très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Et à un moment, il va tomber dans une phase de pauvreté qui sera telle que il va repenser à son ancienne vie chez son papa et il va se dire ni même les serviteurs de mon père en fait ils vivaient mieux que moi actuellement. Et du coup il va se dire bon, je vais retourner chez mon père, je vais m'excuser et je vais lui demander d'être pris comme serviteur et voilà, comme ça je vais mieux vivre que maintenant. Et puis voilà, donc fils s'en va retrouver père. Et en fait, son petit speech, et c'est... en fait, il sait un peu que parler, voilà. Sauf que le père, quand il voit son fils, il est tellement heureux de revoir son fils qu'il va, il va le prendre dans ses bras, il va dire « Oui, tu es le veau gras, aujourd'hui c'est la fête, etc. etc. » Et sauf que, comme je vous ai dit, monsieur avait deux fils. Donc pendant qu'il y en a un qui est parti, il y a l'autre qui est resté. Et celui qui est resté, c'est celui qui avait toujours été droit, qui posait pas de problème, qui était posé, etc., etc. Et du coup, lui, quand il va voir toute la fête qu'on est en train de faire pour son frère qui a osé demander l'héritage à son papa alors que papa n'est pas mort, il va dire « Mais comment est-ce que ça se fait qu'on fasse la fête pour celui-là ?» Et du coup, enfin bon, bref... la parabole du fils prodigue, c'est ça, en gros, en très gros, mais là j'ai déjà raconté 90% de l'histoire. Et y a vraiment cette idée selon laquelle, en fait, tu as un père aimant qui ne te juge pas. Et même si tu t'en vas, que tu lui fais du tort, il attend juste, en fait, le moment où tu vas revenir en ayant pris conscience, en fait, de ce que tu as laissé, de ce à côté de quoi tu es passé. C'est un père qui t'aime inconditionnellement, quel que soit ce que tu fais. Et du coup, le Christ, par amour, il va assumer le mal de l'humanité. Mais le mal d'il y a 2000 ans, le mal de maintenant, là, tous les maux de l'humanité, en fait, il va devenir victime. En fait, c'est ça, en fait. C'est Jésus qui devient victime pour nous. Jésus devient une victime pour nous, mais son don, le don qu'il a fait de lui-même pour nous sauver, bah voilà, c'est ça en fait. Il a fait un don de lui-même ou un sacrifice de lui-même pour qu'on puisse être sauvés. Pour que toi et moi, nous puissions le rencontrer 2000 ans plus tard et être totalement transformés par la rencontre que nous avons avec lui. Genre vraiment dinguerie, juste grosse dinguerie, voilà. Et du coup là pour cet épisode j'ai pas particulièrement de référence biblique ou quoi que ce soit à donner à cet épisode, mais franchement, il y a matière à réflexion, les gars. Et je pense que... Bon, moi qui m'apprêtais à dire, est-ce que vous vous rappelez de la partie où... Mais on va estimer que vous vous rappelez, parce que vous l'avez écouté il y a quelques minutes, de la partie où j'expliquais que aimer, ça fait peur. Aimer, c'est effrayant. Aimer, c'est coûteux. Et tu sais que quand tu décides d'aimer, déjà, aimer, c'est un engagement aussi. On va se rappeler ça. Aimer, c'est un engagement. Mais tu sais que quand tu décides d'aimer, tu ouvres en fait l'opportunité à la souffrance, aux blessures, etc. etc. Et parfois, dans le fait de ne pas s'abandonner complètement à Dieu, il y a vraiment cette peur de l'inconnu, cette peur de « je ne sais pas ce qui m'attend, donc j'ai pas particulièrement envie de complètement abandonner à la volonté de Dieu. » Pas gamé. Et j'ai discuté avec du coup d'autres personnes de mon âge, chrétiennes comme moi, à qui je disais que Jésus, qui est Jésus, lors de son épreuve sur la croix, a dit l'une des paroles qui, pour moi, à mon sens, est définitivement la parole la plus triste de l'évangile. Mais bon, je vais essayer d'atténuer mes propos en disant la parole la plus triste que Jésus ait dite. C'est le moment où Jésus est sur la croix et il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a eu le sentiment d'être abandonné par son père. Moi, je sais pas vous, mais moi, pour moi, c'est lunaire. Parce que c'est complètement... incroyable ! C'est incroyable ! Sur chaque année, je suis confrontée à cette phrase et chaque année, je ne réalise toujours pas. Et jusqu'à ce jeudi, je vous assure, cette parole, pas qu'elle n'avait aucun sens pour moi, mais cette parole, vraiment, elle me traumatisait parce que je me disais, mais comment est-ce que Jésus, qui est Jésus, Jésus étant Jésus, savait la finalité de son sacrifice. Jésus savait que son sacrifice allait sauver tout le monde. Il savait certes que les hommes n'allaient pas du jour au lendemain tous se tourner vers Dieu à cause de son sacrifice en une seule fois, mais il avait conscience que ce qu'il faisait, il connaissait la finalité du projet. Il savait que ce qu'il était en train de faire, ce n'était pas en vain. Alors que, et malgré ça, il s'est senti abandonné au moment d'être sur la croix. Alors qu'une personne comme toi, une personne comme moi, des gens dans le commun des mortels comme nous, désolé de le dire comme ça, mais on vit des choses et on ne voit clairement pas le bout du tunnel. On ne sait absolument pas pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre ces choses-là. On ne sait pas pourquoi. Et on aura peut-être la réponse dans 10 ans, ou jamais, ou même demain. Je n'en sais absolument rien. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne sait vraiment pas ce qui nous attend et on ne sait vraiment pas pourquoi est-ce qu'on vit certaines épreuves qui sont... Je ne dirais pas que c'est comme la mort de Jésus sur la croix, non. Mais on vit des épreuves qui sont extrêmement dures. Mais extrêmement dures. Et Jésus a vécu cette épreuve extrêmement dure, mais Jésus savait pourquoi il vivait cette épreuve extrêmement dure, et pas toi, et pas moi, et pas nous. Enfin, a priori. Et malgré tout ça, Jésus a eu le sentiment de se sentir... Le sentiment de se sentir. C'est super. Il s'est senti abandonné. Jésus s'est tellement senti abandonné qu'il a posé la question à Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Moi, je sais pas vous, mais encore une fois, c'est... Oh là là. Bref. Du coup, j'ai partagé cette interrogation-là avec les autres chrétiens, chrétiennes de mon âge avec qui j'ai papoté avec après l'intervention du théologien. Et je leur disais, moi, franchement, c'est un truc qui me choque. Parce que si même Jésus, qui connaissait le plan, se sent abandonné, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Et il y a une... des filles, du coup, qui étaient là, qui m'a dit,
Et je pense que c'est très vrai. Parce que du coup, je lui ai dit que je vais répéter ce qu'elle m'a dit. Je sais pas si elle pensait que je plaisantais ou pas, mais je lui ai dit que ce sera répété à grande échelle. Ok. Mais du coup, elle m'a dit qu'elle pense en fait que Jésus nous montre l'exemple dans tout ce qu'il fait. Jésus nous montre l'exemple dans tout ce qu'il fait. Et en fait, il s'est tellement rapproché de notre nature humaine qu'il a ressenti en fait tout ce qu'une personne humaine normale pourrait ressentir dans une relation avec Dieu. En même temps, parallèlement, ça voudrait dire que le niveau auquel Jésus est arrivé dans la proximité avec son Père, avec Dieu, c'est un niveau auquel on peut espérer arriver aussi. Et il faut se dire que, du coup, Jésus ressentait, en fait, était arrivé à un stade où il pouvait vraiment ressentir tout ce qu'un humain normal pouvait ressentir dans une relation avec Dieu. Et donc, l'abandon qu'on peut ressentir plus ou moins régulièrement de la part de Dieu, bah Jésus l'a ressenti à ce moment-là. Et de ce point de vue, ça n'aurait, entre très gros guillemets, rien d'anormal. Mais après, pour la partie exemple, on peut se dire en fait que quand Jésus s'est senti abandonné par Dieu, et qu'il s'est senti tellement abandonné par Dieu qu'il l'a exprimé, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, la suite de l'histoire, c'est que Jésus est mort. La spoiler alerte qui, encore une fois, n'en est pas une que. Bah du coup, les gars, pour ceux qui ne savaient pas, quand Jésus a fini de dire ça, je peux pas vous dire textuellement ce qui s'est passé, hein, mais il expia, il mourut, quoi. Voilà. Et du coup, cette fille m'expliquait que à ce moment-là, Jésus est mort. C'est-à-dire qu'il s'est complètement abandonné lui-même à la volonté de Dieu. Il s'est senti abandonné, mais il n'a pas dit « Allez, c'est bon, moi j'en peux plus, c'est fini. » Il s'est quand même laissé porter par le dessein de Dieu. Après, vous me direz, encore une fois, Jésus, il savait ce qu'il attendait. Mais s'il s'est senti abandonné, c'est qu'il n'en était plus si sûr que ça. Après, n'allez pas dire que Anne Maïs a affirmé que machin. Mais, à méditer. Et du coup, elle disait que des fois, dans la vie, lorsque tu te sens complètement abandonné par Dieu, bah tu dois pas lâcher sa main, en fait. C'est pas parce que tu te sens abandonné que tu dois te dire « Ah, mais c'est fini, en fait, je fais plus confiance à Dieu. » C'est absolument pas l'attitude qu'il faut avoir. C'est l'attitude que tu seras tenté d'avoir, certes, et c'est totalement concevable, mais c'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Comme Jésus, il faut en fait continuer de te laisser porter par le dessein de Dieu. En est dessein EIN. En ayant complètement conscience du fait que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi, et que du coup, même si tu te sens abandonné par lui, ses projets n'ont pas changé. Ses projets n'ont pas changé et il veut te rendre heureux, heureuse. Mais encore une fois, il faut que tu sois collaboratif, collaborative. Et du coup, voilà, elle m'a dit ça. Ça m'a convaincue comme réponse. Voilà, ça m'a convaincue comme réponse. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est très vrai, très souvent. Lorsque tu te sens abandonné par Dieu, tu n'as pas envie de continuer en fait à attraper sa main. Et puis, voilà. Pas spécialement gamé. Surtout que, comme je vous ai dit dans l'épisode passé, dans l'avant-dernier réel que j'ai posté, certes, on n'accepte pas suffisamment le fait que la volonté de Dieu peut être différente de notre propre volonté. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Oui, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Mais encore, qu'est-ce que Dieu veut? Et parfois, question sur question qui t'empêche d'avoir les bonnes réponses. Mais quoi qu'il en soit, je pense que là, il y a vraiment matière à réflexion, il y a vraiment matière à cogiter. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je suis satisfaite de... voilà, je suis satisfaite. Et je me dis que vraiment, si je pouvais... en vrai, je saurais même pas comment faire un résumé, les gars. Mais ce qui est sûr, c'est que
Jésus est mort pour toi, pour moi, pour que nous soyons heureux en fait. Donc soyez heureux. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire, surtout quand on n'arrive pas à mettre une définition sur ce qu'est le bonheur. Mais en tout cas, on va le chercher. Et on va chercher à comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, pour mieux comprendre de façon générale le pourquoi de certaines choses. Jésus a souffert pour toi, pour moi, pour nous tous ici sur cette terre, depuis maintenant plus de 2000 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que le sacrifice de Jésus n'est pas vain et que il est mort pour te sauver. Il est mort pour te sauver. Il est mort pour te rappeler que tu es un être d'amour qui est fait pour aimer et que du coup, bah, tu dois aimer. Et encore une fois, tout ça, ça nous invite vraiment à nous rappeler que Dieu, Jésus, il veut faire une relation avec nous. Et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour établir une relation avec nous, mais tout en continuant de respecter notre liberté. Donc finalement, la personne qui a un pas à franchir ou encore un effort à faire, bah c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc voilà. Tu sais, la meuf qui sait pas comment conclure son épisode. Et enfin bref, voilà. J'ai l'impression que ce serait vraiment impossible de faire une conclusion, les gars. Je suis trop désolée. Mais voilà, c'était ce que j'avais à dire. Donc moi, je vous attends avec ce que vous avez à dire, ce que vous avez à partager. Voilà, je vous attends sur le compte Instagram de Soul for Soul, où on peut parler sans filtre qu'on veut, comme on veut. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode, pour le prochain hors-série. Normalement, c'est un hors-série, mais on sait jamais ici. Donc voilà, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, cette semaine, rappelez-vous que vraiment, Jésus a payé le prix fort pour que vous soyez en vie, pour que vous soyez heureux et épanoui, et que quelque chose que vous traversez actuellement comme difficulté, ça va finir. Et votre vie sera un témoignage pour d'autres. Voilà. C'était mes mots de fin. Bisous! I gotta say one that prays when bad days come. She won't run from the problem. She right here do something.